On est avec Jean-François et Dominique, hein, membres du collectif Urgence Palestine Bassin Minier 62 et également membres de leur propre organisation. Je vais vous laisser vous présenter avant de vous poser la première question. Jean-François ?
Oui, alors je suis syndicaliste enseignant, mais j'interviens ici plutôt au titre de mon appartenance au pôle de Renaissance communiste en France, donc le PRCF, voilà.
Et Dominique, je suis syndicaliste enseignant à Lutte de Classe Éducation.
Merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview pour nous présenter cette soirée. Donc, Pierre l'a précisé, mardi 7 avril, on se retrouve à 18h30 au Toit commun pour une soirée consacrée à Gaza, à la guerre. De quoi est-ce qu'on va parler, Dominique ?
Alors, on va parler d'abord de Gaza et de montrer le lien qu'il y a entre Gaza, laboratoire des atrocités en cours, et les autres événements guerriers qui sont apparus. Alors, la décision d'organiser cette soirée est apparue il y a plusieurs mois. Il se trouve que l'actualité récente est encore plus dramatique. Donc, il y a de plus en plus nécessité de parler de guerre, quels sont les ressorts de la guerre, et qu'est-ce qui peut aller vers la paix et la justice.
Peut-être est-ce que tu peux repréciser ce qu'est ce collectif Urgence Palestine Bassin Minier 62 ?
Alors, c'est un collectif d'organisation qui regroupe des partis, des syndicats, des associations, notamment la FPS, qui est quand même la tête de proue de l'organisation. Et il y a à la fois du tractage chaque semaine dans Lens et environ pour annoncer la manifestation mensuelle dans Lens pour ne pas faire oublier ce qui se passe en Palestine, mobiliser les gens sur les enjeux qui se passent à Gaza et en Cisjordanie.
Alors on va revenir sur la thématique, hein, Gaza, la guerre, mais peut-être Jean-François, la soirée, comment est-ce qu'elle va se dérouler ?
Alors, on va commencer par projeter une vidéo. On avait commencé par... On s'était tourné vers les interviews de Jean-Pierre Filiou, qui est un historien et qui, il y a un an, revenait de Gaza et, dans ses prises de parole, faisait le lien entre Gaza et l'Ukraine en mettant le doigt sur deux choses. D'abord, le deux poids, deux mesures du droit international, cette espèce de double standard en disant c'est de la schizophrénie arrive à ce point-là. Quand on voit donc la mollesse des réactions européennes, la complicité même, il faut le dire, à Gaza et la rapidité avec laquelle l'Europe a sanctionné la Russie, donc ce deux poids deux mesures, et puis avec l'idée que malheureusement Gaza était un peu comme Guernica en 1937, une sorte de laboratoire et annonciatrice des guerres à venir, ce qu'on est en train de constater au sud du Liban par exemple en ce moment. Donc on hésitait avec ça, et puis finalement la mort de Leïla Chaïd, qui a été quand même la diplomate qui a incarné la Palestine en Europe, en France, le décès qui est survenu très récemment, nous ont donné l'idée finalement de lui donner la parole, puisque dans une interview qu'elle a pu donner juste avant de se donner la mort, en fait elle est morte pas tout à fait naturellement, elle reprend tous ces points, sachant que le dénominateur commun entre toutes ces associations, et je termine là-dessus, c'est quand même notre attachement au droit international.
Donc un film qui est une interview de Leïla Chaïd.
C'est ça, voilà.
Et ensuite ?
Eh bien ensuite, l'idée c'est bien sûr de discuter avec la salle, mais de faire des petits zooms pour donner quelques boîtes à outils aux gens qui seront présents, donc un peu dans un esprit éducation populaire, on va dire. Il y aura donc une intervention sur le droit international en tant que tel, qui sera plutôt prise en charge par la FSU, donc, qui est une fédération syndicale de l'enseignement, et donc évidemment un enseignant d'histoire qui refera un petit point sur à la fois le droit international, si je puis dire, de la guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui les conventions de Genève, ce qui nous permet de comprendre ce que c'est qu'un crime de guerre et ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. Et puis aussi, si je puis dire, le droit international de la paix, qui va naître au XXe siècle avec la Société des Nations et puis l'ONU. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, quand le droit international recule, c'est la guerre qui avance. Donc ça va être un... on va essayer de faire des petites cartouches ou des petits zooms.
Ça c'est la première intervention, en quelque sorte.
Je pense... Alors, Alors, peut-être que la première intervention de toutes, ça sera certainement notre camarade de l'association France-Palestine Solidarité.
La FPS.
Voilà, la FPS 5962, qui, je pense que ça sera Sylviane, qui fera une intervention, qui fera un bilan, qui fera un point, comme on a l'habitude de le faire à chaque fois qu'on manifeste à Lens, qui fera un point sur la situation à Gaza, la situation en Cisjordanie, et hélas, je pense qu'elle fera aussi, puisqu'on voit bien que les mêmes méthodes de destruction massive et de crimes de guerre se perpétuent en Iran et au Liban, sud Liban. Elle fera donc, je pense que c'est ça qui ouvrira la séance. On va affiner, peaufiner ce soir. On se réunit ce soir pour finaliser tout ça, mais ça serait assez cohérent que ça soit d'abord un zoom sur la question palestinienne. Très vite aussi, un zoom sur la question du droit international.
D'accord, donc les deux premières interventions. Ouais. Ensuite, il y a d'autres capsules, comme tu dis, d'autres interventions.
Eh bien oui, Dominique peut peut-être nous en dire un mot, puisqu'il interviendra aussi.
Alors, il y aura effectivement chaque organisation qui intervient ce soir-là. Donc, on est six organisations à prendre la parole en essayant de faire court pour laisser la place à un débat avec la salle. Donc, les pastilles vont effectivement être chronométrées. En tant qu'organisation, on va pouvoir prendre la parole et expliquer les points qui sont jugés importants par l'organisation partie prenante du collectif. Et après, en tant qu'organisateur de la soirée, on a prévu aussi des pastilles dans une optique d'éducation populaire. Donc, par exemple, il y en a une qui est déjà actée, qui est sur les ressorts de la propagande de guerre. La soirée s'appelle « Contrer la guerre ». Et c'est aussi donner des moyens à tout un chacun de comprendre les mécaniques à l'œuvre qui conduisent à la guerre et de pouvoir se prémunir contre les différents types de propagande, le rôle des médias dans cette avancée soi-disant inexorable vers la guerre, etc. Donc, en tant qu'organisation, comme je suis dans un syndicat enseignant, on va se focaliser sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. Okay. Donc, avec ce qui a été le SNU, le Service National Universel, qui est remplacé par un service militaire volontaire, mais l'idéologie est la même, avec la possibilité d'échapper au stage de seconde, soit en faisant une action dans l'armée, soit en faisant un programme Erasmus, et on se doute bien que ce ne sera pas les mêmes classes sociales qui vont bénéficier d'un dispositif ou de l'autre. Et donc, en tant que syndicat de lutte de classe, on est très sensible à cette inégalité devant l'avenir. Et on parlera également aussi de ce qui se passe avec une loi qui discute en ce moment sur la volonté de renforcer l'enseignement de la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté. Donc ça, c'est une volonté de remettre encore plus d'éducation à la guerre dans les programmes scolaires.
Donc ça, c'est toi, au nom de lutte de classe éducation,
exactement,
qui intervient sur cette thématique.
Oui.
Très bien. Les autres thématiques?
Alors, on sait qu'il y aura deux interventions de formation politique, le PCF d'une part et les filles d'autre part, qui feront une lecture géopolitique des conflits ou du conflit actuel.
Donc PCF, Parti communiste français, et les filles, la France insoumise.
Voilà. Quant au PRCF, en l'occurrence, par mon intermédiaire, on s'est dit qu'on allait faire un zoom. Moins partisans quand même que pédagogiques, on l'espère, pour donner en quelque sorte des outils, encore une fois, pour penser l'impérialisme qui semble quand même être une des clés de lecture, en tout cas celle que nous on privilégie, hein, parce qu'on est les héritiers du marxisme, et même, pourrait-on ajouter, du marxisme-léninisme, pour être tout à fait précis. Et donc on sait que les auteurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e ont était confronté à cette poussée des impérialismes. Bien sûr, on est d'accord pour dire que l'impérialisme n'a pas attendu après la fin du 19e siècle pour exister, puisque si on remonte dans l'histoire de l'humanité, l'impérialisme est aussi vieux que les États cités, et ça nous renverrait au moins 4500 ans en arrière. Mais en tout cas, il y a quelque chose de neuf qui se met en place à la fin du 19e siècle, le capitalisme financiarisé, c'est ça la nouveauté de cette fin du 19e siècle, c'est le capital financier qui va prendre le contrôle de l'économie, donc cette première financiarisation du capitalisme, elle arrive non pas dans les années 80 du XXe siècle, mais à la fin des années 90 du XIXe siècle. Et donc, tous ces penseurs-là, à la suite d'un historien anglais qui s'appelle Hobson, notamment donc tous ces intellectuels d'obédience marxiste, on va dire, le plus connu étant Lénine, mais c'est aussi bien Rosa Luxembourg, par exemple, vont se mettre à penser cette rencontre entre l'impérialisme que l'on connaît de longue date et le capitalisme arrivé à cette ultime phase de mondialisation financière, où en fait le monde est complètement conquis par les grandes puissances capitalistes et où il ne reste plus comme seule issue qu'un repartage entre puissances inter-impérialistes, enfin entre puissance impérialiste, c'est ce qui se passe en Europe avec la guerre 14-18. Évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, puisqu'aujourd'hui, il y a un hyper-impérialisme dominant qui écrase la partie, qui est l'impérialisme américain. Et donc, au fond, pour essayer de donner quelques outils aux gens qui seront présents, moi, j'essaierai au fond de montrer qu'il y a plusieurs grilles de lecture, il y a au moins trois modèles dominants qui permettent de penser l'impérialisme, dont celui qui privilégie la grille de lecture économique, hein, qui consiste à dire que l'impérialisme, ce n'est pas seulement un expansionnisme territorial. Si c'était le cas, évidemment, il y a de l'impérialisme dès qu'on va envahir son voisin. Ça, pas besoin de faire de dessin. On a bien compris que ça se passe en Ukraine. Mais qu'il y a un impérialisme aujourd'hui qui est celui du dollar, qui est celui de la finance et qui a un contrôle dominant sur les circuits de l'énergie et du pétrole.
Très bien. Donc, on a ces six interventions, hein. L'AFPS, le PRCF que tu viens d'évoquer avec l'impérialisme, lutte de classe éducation avec la situation scolaire finalement, enfin la situation ou plutôt l'emprise au sein de l'école de ces questions-là, la FSU qui interviendra sur le droit international et le Parti communiste français ainsi que la France insoumise qui vont intervenir sur des questions géopolitiques plus générales qu'elles sont actuellement, que ces deux organisations sont actuellement en train d'y travailler. Dominique, peut-être je t'interpelle directement. Qu'est-ce qui a poussé le collectif Urgence Palestine Bassin Miné 62 à élargir en quelque sorte cette réflexion à l'ensemble de la planète ?
Alors, il y a une volonté des organisations politiques de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe à Gaza dans l'optique de ce qui a été rappelé par Jean-François, des propos de Jean-Pierre Filliou qui fait très bien le lien, de dire que Gaza, c'est un laboratoire et donc en fonction de comment ce problème-là est géré par la communauté internationale, on sait que ça va avoir des répercussions ailleurs. Et l'actualité nous a donné malheureusement raison, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe à Cuba, ce qui se passe en Iran. Il y a cette illustration qu'il y a une vraie volonté d'hégémonie politique et d'étouffement de tout ce qui peut être contestation au niveau mondial. Et donc, il nous a semblé nécessaire de pouvoir discuter de sujets qui malheureusement, ne sont pas traités dans les médias dominants, qui sont, si on prend les chaînes en continu, il y a un traitement médiatique qui est extrêmement dissymétrique de la guerre et de ce qui se passe en général à Gaza et en Palestine, mais de tout ce qui est fait guerrier, il y a quand même une opinion dominante qui est d'aller vers la guerre et vers une marche soi-disant inéluctable. Donc nous, on avait besoin de pouvoir en parler, de pouvoir rencontrer, d'élargir les thématiques abordées au sein du collectif, parce que organiser une manif, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc de pouvoir aussi outiller les gens sur les dynamiques de propagande qui sont à l'œuvre. Et de pouvoir faire le lien entre... Alors, quand on est au sein du collectif Urgence Palestine, on parle de Palestine. Et ça peut être frustrant de ne pas pouvoir parler de ce qui se passe à Cuba, qui a toujours été un soutien à la Palestine, historiquement. Et donc, on ne mélange pas les combats, et en même temps, les combats se complètent. Donc, il faut qu'on puisse avoir le temps, un espace, pour pouvoir parler de ça. Et donc, on organise une première soirée dans cette optique.
Première soirée parce qu'il y en aura d'autres ?
Alors sans doute, vu le spectre extrêmement large de ce qu'il y a abordé comme sujet, il est possible que d'autres organisations souhaitent apporter leur contribution. Donc là, ce soir-là, il y aura six organisations, mais il y a d'autres organisations qui font partie du collectif. Il y aura des focus qui seront faits sur un certain nombre de thématiques, mais on n'aura pas épuisé le sujet, loin de là. Et donc, selon les besoins du collectif, parce que Jean-François et moi, nous sommes dans un groupe de travail au service du collectif. Donc, si le collectif décide qu'il est utile et pertinent d'organiser une autre soirée, on trouvera de quoi largement alimenter une autre soirée pour pouvoir continuer à contrer la guerre.
Très bien. Et on communiquera ces différents rendez-vous sur Micro-Rebelle 99.6. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ce que tu viens de dire. Et pour ça, je prends comme point de départ l'affichette que le collectif a produite. Alors sur cette affichette, il y a une planisphère, une carte du monde, avec dessus un nuage de mots-clés, des mots-clés de différentes couleurs. Il y a trois couleurs, le vert, le rouge, le noir. Et moi, j'ai eu le sentiment que ces trois couleurs correspondaient à finalement une même sous-thématique. Alors, Je vais vous proposer de revenir sur ces couleurs et sur ces mots-clés. Alors, la première couleur, c'est le noir. Et ce qui est écrit en noir, c'est Ukraine, Gaza, Nouveau-Guernica. Jean-François, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une sous-thématique dans ces trois mots ?
Ah, bah écoute, tu fais bien d'attirer notre attention. Je n'avais pas poussé mon observation jusqu'à ce point-là du détail. Mais bon, en tout cas, il est clair que là, le 7 avril, on avait d'une part le besoin de se retrouver entre co-organisateurs de ces manifestations lensoises pour pouvoir penser la guerre. Parce qu'en fait, on a vraiment aussi besoin de penser la guerre pour agir contre la guerre. On peut combattre ce qu'on comprend, et moins on comprend un phénomène, moins évidemment, plus on le subit, et moins on peut s'armer pour le neutraliser. Donc penser la guerre me semblait fondamental, en mettant à contribution nos compétences. Pourquoi les hommes se font-ils la guerre ? C'est quand même une question philosophique et politique majeure. Donc on espère quand même commencer à apporter quelques éléments de réponse. Et en tout cas, la fiche, oui, elle représente un planisphère fissuré de toutes parts, craquelé d'ailleurs par une espèce de sécheresse. On voit bien que la planète ne survivra pas. Enfin, on ne voudrait pas non plus avoir des propos totalement alarmistes, mais on voit bien que on pourrait s'engager vers une troisième guerre mondiale. Enfin, il faut quand même appeler un chat, et que ce conflit à Gaza, en défendant Gaza, ce qu'on veut faire comprendre, c'est qu'on se défend, nous, occidentaux, européens, en défendant Gaza. Le problème de nos mobilisations, c'est que on a un peu l'impression que d'un côté sur les trottoirs, on a des gens qui subissent la crise, la guerre, la troisième guerre du Golfe, pourrait-on dire, au Moyen-Orient, puisqu'ils payent le gasoil, l'essence à un prix exorbitant, et bientôt le gaz et bientôt l'électricité, ça va suivre. Et qu'en même temps, ils se disent, oui, mais Gaza, c'est pas tout à fait notre problème, on n'est pas totalement concernés. Or, nous, on essaie justement de montrer que ces lignes de fissures qui sont sur l'affichette et qui sont en train de craqueler tout le globe terrestre, en fait, ce sont des lignes de failles qui se relient les unes aux autres, depuis l'Amérique du Sud jusqu'au Moyen-Orient, en passant d'ailleurs par ce qui se passe en Europe de l'Est.
Voilà. Dominique, Nouveau-Guernica, Gaza, Ukraine.
Alors effectivement, il y avait un code couleur au niveau du nuage de mots qui a été utilisé. Alors, tu as cité les trois mots qui sont en noir, on aurait pu en mettre d'autres, mais ce sont ceux qui étaient au moment où on a décidé les points saillants. Donc, Ukraine, Gaza, Nouveau-Guernica en noir, ce sont les points noirs actuels au niveau de la planète. Depuis, on aurait pu en rajouter d'autres. Si je poursuis le code couleur, en rouge, on a un certain nombre de mots qui sont les problèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir alors, avec différents degrés de problématiques. Alors, je ne sais pas si tu veux les citer ou si je les cite.
Je vais les lire. Hein. Service militaire, génocide, impérialisme, crime de guerre, propagande, course à l'armement.
Et on aurait pu en rajouter, si l'affiche avait été deux fois plus grande, on aurait largement pu trouver d'autres ressorts qui font qu'on va vers la guerre. Et donc là, c'était des mots clés qui permettent d'interpeller. Alors, la couleur rouge, parce que c'est ce qui va mener à la guerre et c'est ce qui alimente la guerre. Et c'est contrebalancé par des mots qui sont écrits en plus grand, mais qui sont malheureusement moins nombreux. Là, c'est le code vert.
Voilà, donc ONU, droit international, paix et Cour internationale de justice.
Et oui, ça nous semble être les moyens. Alors, ils sont critiqués dans les médias, ils sont critiqués par Trump. Donc, si c'est critiqué par Trump, c'est presque une bonne raison de vouloir les maintenir. On ne s'en sortira pas si on répond à la guerre par la guerre ou si on répond... Donc, ce sont les outils... imparfait, critiquable par certains aspects, mais sur les outils nécessaires pour arriver à un règlement des conflits. La Cour internationale de justice, il va falloir traîner en justice un Netanyahou, il va falloir traîner en justice peut-être un jour un Trump pour qui rendent compte de leurs crimes.
Alors j'essaie de balayer un peu ces différents mots-clés. Hein. Peut-être rappeler ce qu'est Guernica. C'était...
Oui, bah, c'est un bombardement. On est en pleine guerre d'Espagne contre le fascisme. Et,
donc, il y a 90 ans. Hein,
alors, c'est en 1937. Voilà. C'est en 1937. Et on assiste. En fait, les guerres jusqu'à 14-18 prennent pour cible les militaires, essentiellement. Il y a un basculement entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui fait que les cibles, les victimes des guerres vont devenir essentiellement les civils. Par exemple, on est à presque 30 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale, rien que pour l'Union soviétique. 27 millions de morts, pour être précis, c'est énorme. Et cette fois-ci, ce n'est pas les militaires, c'est des civils. Et ce point de bascule entre le massacre des tranchées qui a été 14-18, c'est une boucherie, on est tous d'accord, mais c'était essentiellement des militaires qui s'entretuaient. D'ailleurs, un petit peu comme la guerre actuellement en Ukraine, qui fait essentiellement, qui ressemble un petit peu à la guerre 14-18 de tranchées, où il n'y a pas du tout de domination du ciel par une aviation et où on retrouve des combats qui opposent des militaires à des militaires. Alors bien sûr, il y a des victimes collatérales civiles, mais principalement, il y aura donc des crimes de guerre très probablement, il y en a déjà, mais très principalement, c'est des victimes militaires. Avec Guernica, on bascule dans autre chose, dont Hiroshima va être en 1945 l'aboutissement, c'est-à-dire l'utilisation du nucléaire. Et la Deuxième Guerre mondiale est très clairement une guerre où tous les coups sont permis. C'est-à-dire le crime de guerre devient la règle. C'est grave parce qu'il y a des tas de penseurs qui ont réfléchi aux conditions d'une paix perpétuelle. Je pense à un auteur qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Emmanuel Kant, qui a écrit tout à la fin du XVIIIe siècle sur un projet de paix perpétuelle, et il dit qu'il y a des choses... Alors, il faut aller vers une fédération d'États qui doivent être, si possible, des républiques. Bon, ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait espéré, puisque en fait, on se retrouve avec des logiques impériales qui ne sont pas du tout des logiques fédérales. Mais le projet implique quand même que... est interdit par le droit de la guerre tout ce qui rend la paix impossible. Par exemple, l'assassinat commandité de chefs politiques. Aujourd'hui, avec qui Trump peut-il négocier? Puisque dès qu'il y a des négociateurs, ils se font assassiner, purement et simplement, et que par deux reprises, les négociations avec l'Iran sur le nucléaire ont été stoppées unilatéralement par l'agression américaine. Je ne vous parle pas des accords sur le nucléaire iranien qui avait quand même été négocié par l'Europe en 2015 et ensuite abandonné par Trump pendant son premier mandat. Donc ces négociations-là, c'était ça, la voie d'un pas vers la paix, c'est-à-dire des négociations, la diplomatie plutôt que la guerre, le droit international plutôt que le droit du plus fort.
Dominique ?
Un petit complément sur Guernica. Les auditeurs connaissent sans doute un très grand tableau de Pablo Picasso qui montre de façon cubiste l'horreur de la guerre avec les animaux déchiquetés, avec un usage inédit de la science, c'est-à-dire que la science est dévoyée pour être plus efficace dans son côté meurtrier. Et donc ce tableau-là est en général plus connu que les conditions dans lesquelles ça s'est arrivé. Et peut-être qu'en France, on a peut-être pas un équivalent, mais Oradour-sur-Glane est assez connu comme étant un massacre qui peut être comparé à Guernica.
Et donc cette technologisation de la guerre, on est en plein dedans aujourd'hui. Les drones, par exemple.
Oui, l'intelligence artificielle. Oui.
L'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Alors, ça, c'est un premier mot-clé. Dominique, dans les mots-clés en rouge, je vois service militaire. Mais il n'y a peut-être pas que le service militaire, il y a peut-être aussi la militarisation des esprits, finalement.
Alors, à double titre, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une logique de propagande de guerre qui est... les mécanismes qui conduisent à la propagande de guerre sont connus, il y a des ouvrages qui sont dessus. On fera un focus, justement, mardi prochain, lors de cette soirée, sur ce qui a été identifié comme étant des mécanismes de propagande de guerre. La militarisation, elle passe aussi par les médias, donc on parlera certainement du traitement médiatique des différents conflits, parce qu'il y a vraiment beaucoup à en dire, avec des citations de ce qui est fait par Acrimed notamment. Et donc la militarisation, elle est à la fois actuelle, elle est déjà à l'œuvre, et il y a une volonté d'augmenter la militarisation des esprits. Quand on regarde... j'ai parlé tout à l'heure du texte de loi qui s'appelle... Enfin, la proposition de loi... proposition parlementaire de loi qui s'appelle « Renforcer l'enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté ». Les arguments qui sont fournis par les promoteurs de ça, c'est de dire ben, il faut que les gens, dès l'école, aient en tête les nécessités de la guerre, les bienfaits de l'armée. Donc il y a un côté, pour le coup, vraiment propagandiste de bourrage de crâne de nos chères têtes de toutes les couleurs de cheveux possibles. Et donc c'est vraiment... Il y a un côté que je trouve abject dans... le fait de s'attaquer aux enfants dès l'école pour leur faire rentrer dans le crâne des logiques que nous combattons. C'est effectivement, si on est promoteur de la guerre, c'est chez les enfants qu'il faut inculquer cette logique-là. Comme on a pu, quand on regarde les ouvrages d'histoire, quand on regarde les manuels qui étaient faits au début du 19e, comment bourrer le crâne aux enfants pour la revanche de 1870, pour amener la guerre de 1914, On rejoue un peu le même scénario avec des moyens différents. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse opposition vers cette militarisation des esprits. Il y a une forme de consensus et les quelques personnes qui s'opposent publiquement sont assez vite ringardisées dans le débat public.
Y compris, j'ai envie de dire, même à gauche, on a cette militarisation des esprits.
Tout à fait. Il y a un aspect qui est pris en avant. Il y a un mot qui circule depuis à peu près 4-5 ans, qui est l'écologie de guerre. C'est-à-dire qu'il peut même, du côté des écolos et du côté d'une partie de la gauche, trouver que la guerre a des vertus écologiques. Ce qui est assez, assez paradoxal. Alors, ils argumentent, hein, y a des ouvrages qui circulent, etc. Donc, oui, il y a effectivement à combattre non seulement la droite dans toutes ses nuances de droite, y compris les plus extrêmes, qui, elles, sont clairement pour la guerre et c'est quasiment dans leur ADN. Malheureusement, à gauche aussi, il y a des tentations militaristes.
Jean-François, je t'ai vu réagir à ce sujet.
Oui, parce que on assiste depuis 4 ans, donc depuis... l'opération spéciale, comme dit Poutine en Ukraine, a une véritable pédagogie de la guerre. Moi, je dirais que c'est une propagande, mais c'est une pédagogie de la guerre. On ne peut pas ouvrir un journal télévisé. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas non plus aller sur les plateaux de BFM TV, mais où il y a un état-major avec des généraux, des colonels, des trucs et des machins qui nous expliquent qu'il est urgent de s'armer, d'augmenter le budget militaire. Entre nous soit dit, on va à un moment donné avoir des problèmes avec le budget de la France, puisqu'on ne peut pas à la fois multiplier par deux la participation française à l'OTAN et défendre les services publics. Et aujourd'hui, c'est une journée de grève dans l'éducation nationale. Les enseignants demandent plus de postes et une revalorisation de leur carrière. Bon, à un moment donné, on va nous expliquer qu'il va falloir choisir. Or, ce qui est terrible, c'est que j'ai trouvé chez des militants qui sont quand même... dans des organisations politiques et syndicales censées être de gauche, cette idée qu'il y a une menace russe, on a réussi à mettre ça dans la tête des gens, un impérialisme russe qui menace de défiler finalement avec ses chars sur les Champs-Élysées. Et donc si on est vraiment convaincu par ça, ce qui me semble être une ânerie absolue, hein, mais si on essaiera d'en discuter peut-être le 7 avril, mais si on est vraiment convaincu qu'il y a une menace russe, au nom d'ailleurs d'une conception impérialiste qui ne me semble pas pertinente, où l'impérialisme serait animé par des idéologies. Alors, il y a des idéologues en Russie, effectivement, qui sont grands russes, qui sont néo-eurasiennes, comme on dit, et qui, l'extrême droite russe, développe effectivement des projets expansionnistes portés par des idéologies très réactionnaires. Mais tant qu'on a ça dans la tête, finalement, d'une certaine manière, il ne reste plus que implicitement ou explicitement, de faire un pas comme en 14 vers l'union sacrée. Une fois qu'on a assassiné Jaurès, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, on vote les budgets de guerre. Et c'est malheureusement ce qui se passe au Parlement en France. Et dans mon propre syndicat, je constate qu'on trouve ces thèses-là dans les textes fondateurs de nos congrès, à partir de ce moment-là, quelles armes intellectuelles on a pour enrayer la machine de guerre qui se met en place et à laquelle, d'une certaine manière... Alors, le vert kaki et le vert d'une économie durable de guerre, hélas, ça fait bon ménage.
Bien, je pense que je regarde Pierre, on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission. J'avais envie peut-être de finir... Je ne sais pas si c'est une note optimiste, mais enfin de finir sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, et puis je me suis rendu compte en lisant le Monde diplomatique du mois d'avril, hein, autrement dit, qui est juste en train de sortir. Dans l'éditorial, je lis ça. Le 15 février 2003, plus d'un million de manifestants battaient le pavé londonien contre l'invasion de l'Irak. Plusieurs centaines de milliers marchaient à New York et Washington. Et près de 15 millions à travers le monde, la plus vaste mobilisation internationale jamais enregistrée. Donc ça, c'était en 2003, il y a une bonne vingtaine d'années. 20 ans plus tôt, le 12 juin 1982, c'était pour réclamer le désarmement nucléaire qu'un million de personnes envahissaient Central Park au son des concerts de John Baez et de Bruce Springsteen. Le camp anti-guerre avait ses musiciens, ses écrivains, ses cinéastes. Cette tradition s'est effacée. On a effectivement l'impression qu'aujourd'hui, les rues sont désertes pour protester contre la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que le combat est perdu d'avance ?
Alors, s'il est perdu d'avance, c'est pas la peine d'organiser des soirées pour convaincre les gens. Il y a des outils, il y a des modes d'action. Historiquement, ça s'est passé, il y a pu y avoir des réactions. Alors, il y a une forme d'anesthésie générale des esprits. Et là-dessus, la mainmise sur les médias par un certain nombre de groupes qui ont aussi un intérêt à la guerre. C'est-à-dire que les multimilliardaires qui possèdent les médias ont aussi des intérêts dans d'autres domaines. Et donc, il y a un sursaut citoyen à organiser. On estime que mardi, on va pouvoir apporter notre petite contribution à ça, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir d'autres soirées, d'autres projections débat, d'autres ciné-débats, avec ce qui se fait déjà au niveau du Toit commun, avec déjà les émissions de Micro-Rebelles, avec aussi les émissions au niveau de ce qui se passe au niveau du lac, enfin tous les îlots de résistance qu'on peut avoir dans le bassin minier. Et partout ailleurs en France, il va falloir continuer à alimenter de quoi apporter la réflexion, la contradiction à la pensée dominante. Non, la guerre n'est pas inéluctable. On n'est pas. Non, c'est pas déjà perdu. Mais il y a un gros boulot à faire.
Peut-être aussi, Jean-François, rappeler. Dominique évoque les profiteurs de guerre, mais rappeler aussi que ceux qui trinquent pendant les guerres, ce sont les travailleuses, les travailleurs, ce sont les gens, d'une manière générale.
La guerre accélère finalement le travers habituel du capitalisme. Au fond, on privatise les profits et on socialise les pertes. C'est ça la guerre, mais en puissance 1000, quoi, c'est ça. Bon, donc on sait que ça va enrichir le complexe militaro-américain, s'enrichit. Que le pétrole augmente et que le gaz augmente, finalement, ce n'est pas tellement un problème pour les États-Unis qui nous en vendent, depuis d'ailleurs qu'ils ont fait exploser Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique. La cible d'ailleurs derrière ces conflits du Venezuela au Golfe Persique, c'est d'une certaine manière de contrôler l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Enfin, il y a vraiment des enjeux géopolitiques là qui sont planétaires. Il faut bien comprendre que Trump, ce n'est pas seulement un fou furieux, il a aussi une logique impérialiste derrière tout ça, qui prend pour cible finalement tous ceux qui peuvent lui faire concurrence. Bon, l'Europe ne peut plus lui faire concurrence. Maintenant, on a été ruiné par cette guerre. D'ailleurs, très certainement aussi avec un pilotage. Enfin, les États-Unis ne sont pas complètement blancs dans la déclaration, enfin, cette guerre qui se joue par Ukraine interposée entre l'OTAN d'une part et la Russie d'autre part. Et au fond, notre objectif actuel, c'est de faire en sorte que c'est de faire le contraire de ce qui se passe à Grenay. Tu vois, là, Grenay a basculé dans l'escarcelle du RN. Et qu'est-ce qu'il commence par faire ? Eh bien, il débaptise la place Georges Ibrahim Abdallah, qui est un Libanais, mais un défenseur de la cause palestinienne depuis les années 80. Et il était pendant plus de 40 ans dans une prison française, ce qui était absolument scandaleux. Il avait donc été nommé citoyen d'honneur dans la ville de Grenay. Or, on voit que le Front National, il sépare les fronts, en fait. Il sépare le front, de la colère populaire. Les gens ont quand même compris que Trump, c'était le danger public de la planète numéro un et que Netanyahou, c'était son allié. Que le danger, il est plus de ce côté-là que du côté de la Russie ou de la Chine. Et donc, il y a une colère populaire, je pense, qui gronde. Enfin, c'est pas je pense, elle gronde parce que le prix du pétrole nous asphyxie. Et en même temps, on ne se sent pas concerné par ce qui se passe à Gaza. Nous, notre rôle, c'est de faire que les fronts s'unissent et de désenclaver la défense de Gaza d'une forme compartimentée en quelque sorte. Il faut que ce combat pour Gaza soit un combat pour la paix. Et là, on peut être des millions dans la rue.
Alors, unir les fronts, je reprends ton expression, ça signifie s'organiser. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser les gens, il faut organiser. Alors, est-ce que le collectif Urgence Palestine Bassin Minier 62 n'est pas justement très bien placé, puisque il me semble qu'il y a entre 25 et 30 organisations au sein de ce collectif. Est-ce que déjà, à partir de ce collectif, il n'y a pas moyen d'organiser quelque chose de collectif, une riposte, une lutte collective sur cette question de la guerre, Dominique ?
Alors, très certainement. C'est aussi pour ça que le collectif a décidé d'organiser cette soirée. On a pu voir que la Journée de la Terre, samedi dernier, était l'occasion d'organiser des manifestations de plus grande ampleur pour les différents collectifs Urgence Palestine partout en France. Et donc, il n'y a pas que dans le bassin minier qui a la matière première et les volontés d'organiser les choses. Il y a beaucoup de citoyens qui se sentent un peu esselés. Il y a des collectifs qui se sentent peut-être désemparés parce que par quel bout prendre ces problématiques qui... C'est pas au niveau d'un seul syndicat, d'un seul parti ou d'une association qu'on va pouvoir changer. D'où l'action collective. Et les collectifs sont un des moyens, l'entraide. aide si chère à Kropotkin, c'est quand même le moyen le plus efficace d'arriver à nous coordonner. Et donc, non, les logiques médiatiques, logiques de guerre nous conduisent vers quelque chose qu'on peut éviter. Et donc, faire prendre conscience aux gens que c'est tout à fait évitable, qu'en s'organisant, effectivement, la lutte est possible. Regarder dans le rétroviseur comment ça a pu être évité par le passé. Et on est vraiment dans une optique d'éducation populaire en disant, ben voilà, on part pas de rien et on va pas dans le mur forcément. On a les moyens collectivement d'agir partout autour de nous, pas seulement en votant, ça peut être un des moyens d'éviter que le pire arrive au pouvoir, mais aussi tout au long de la journée, tout au long de la vie, chaque jour, chaque heure, on côtoie des gens, on peut avoir des discussions sur non, ce n'est pas inéluctable et oui, on peut lutter.
Bien, donc la lutte collective peut infléchir le cours des événements.
La convergence des luttes collectives.
La convergence des luttes collectives.
Hasta voilà. Siempre.
On va s'arrêter maintenant. Je rends l'antenne. Merci à tous les deux d'avoir accepté. Et donc je rappelle un peu l'événement. C'est donc le mardi 7 avril à 18h30. Donc un événement public. Je relis l'intitulé « Contrer la guerre, que nous dit Gaza de l'état du monde ?»
Au toit commun à Lens.